Tu crois qu'ils nous entendent jusqu'à Paris?
Je sais pas, peut-être. Mais Paris n'aura jamais ton accent, Mimi.
Tiens, vous avez vu les nouvelles? Une nouvelle fraîche, ça vient de sortir. Alors dites-moi vraiment, est-ce que vous avez vu la nouvelle? Peut-être qu'on commence à ne plus vouloir les connaître, ces nouvelles. Évidemment, ce n'est pas qu'on s'en fiche, c'est plutôt qu'elles arrivent toujours avec le même poids et qu'on a l'impression de les recevoir avec nous la même fatigue avant même d'avoir compris de quoi il s'agit vraiment. Et pourtant, je vous la repose quand même la question, est-ce que vous avez vu la nouvelle ce matin? Il y a un moment, je crois, où on ne clique plus tout de suite. On repousse, on se dit plus tard. Peut-être parce qu'on cherche à préserver quelque chose à l'intérieur, quelque chose de fragile. Peut-être que ce qu'on cherche à préserver, justement, c'est notre capacité à rester relié sans être emporté, à continuer à faire partie de quelque chose sans avoir à se durcir. Aujourd'hui, faire société, ça parle plus que jamais de notre rapport intime au monde, proche ou lointain. C'est pas abstrait, c'est une expérience quotidienne. Est-ce qu'on arrive encore à s'ajuster les uns aux autres, à accepter de ne pas comprendre tout de suite, à laisser circuler quelque chose sans vouloir immédiatement le maîtriser? Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont justement ces formes d'organisation qui ne reposent pas forcément sur la parole, ni sur la prise de position, des formes où l'attention compte autant que la décision ou l'équilibre n'est jamais acquis, mais rejoué sans cesse. Alors ne parlons pas de la nouvelle, parlons société quand même, et parlons-en à une toute petite échelle. Une ruche, tiens, un espace où rien n'existe seul, où chaque mouvement a du sens parce qu'il s'inscrit dans un ensemble où la communication ne sert pas à convaincre, mais simplement à permettre au groupe de tenir. Aujourd'hui, j'ai pas envie de chercher un modèle, j'ai pas envie de donner de leçons, j'ai envie de faire ce détour avec vous, regarder comment ailleurs ça fonctionne. Et pour réfléchir ensemble, j'ai quelqu'un avec moi en studio, Emmanuel Malo, vous êtes président des Abeilles Mayennaises. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Margot, merci de m'inviter sur l'autre radio.
Alors aujourd'hui avec vous, on va s'imaginer ouvrir une ruche et se poser cette question toute simple. Est-ce qu'on y voit seulement des insectes au travail ou est-ce qu'on peut déjà parler justement d'une micro-société en action? On y répondra ensemble dans quelques minutes. Dans la suite de l'émission, Noé sera au micro pour nous parler de Ma Région Virtuose, un événement qui lui a permis de se poser une question intéressante. La musique dite classique est-elle vraiment plus accessible aujourd'hui? Et comment parfois, sans qu'on y fasse vraiment attention, finalement, elle est déjà là dans nos habitudes culturelles, dans ce que l'on écoute au quotidien. Et puis on terminera avec Donatien, notre chroniqueur hebdomadaire. Lui aussi, à sa manière, pose un regard sur le monde. Un regard qui ne le durcit pas, un regard qui aide à le rendre un peu plus habitable, j'en suis convaincue. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on essaye de faire ici, jour après jour, dans cette émission. Puisque oui, l'agité du local commence. Je suis Margot et si l'auditeur de l'autre radio nous rejoint, c'est une bonne nouvelle. Il n'est pas en retard encore, tout est en cours. Prenez place, installez-vous, on vous attendait. Quoique, il est quand même temps maintenant de passer à l'entretien du jour.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Quand on pense aux abeilles, on pense à un insecte qui nous semble finalement assez familier. Mais si l'on regarde de plus près, c'est une société entière qui s'organise, en tout cas j'en ai l'impression, qui communique, qui prend des décisions, qui réagit au monde qui l'entoure. Alors comment ça fonctionne vraiment à l'intérieur d'une ruche? Qui décide? Comment les abeilles se parlent-elles? Et qu'est-ce que cette intelligence collective peut peut-être nous apprendre sur notre propre manière de faire société? Emmanuel Malo, je le disais, vous êtes le président de l'association Les Abeilles Mayennaises. Et j'avais envie de parler de tout ça avec vous aujourd'hui. Pour commencer, j'ai envie de vous poser cette question-là. Quand on ouvre une ruche, est-ce que vous aussi vous parleriez de micro-société ou est-ce que je me trompe un petit peu?
Eh bien, quand on ouvre une ruche, ce qui est très marquant, c'est qu'on assiste à une agitation fébrile dans tous les sens et on se dit mais qu'est-ce qu'elles fabriquent? On ne voit pas le sens de leurs actions. Et pourtant, quand on regarde la qualité de leur construction et leur développement, leur reproduction, on se dit, mais bon sang, elles y arrivent quand même. C'est un mystère qui a toujours fasciné les hommes de tous les temps.
Et alors, qui décide dans une ruche? Si on parle de société, est-ce qu'il y a un chef ou est-ce que tout se joue collectivement ou est-ce que c'est plus nuancé que ça?
Et alors Margot, en fait, je crois que vous êtes un petit peu déçue parce que je ne peux pas vous apporter une réponse certaine. Ce qui est certain, c'est que dans une ruche, il y a une reine. Et la reine, elle exerce sur ses ouvrières le mot est un peu fort, mais une dictature chimique néanmoins. C'est-à-dire qu'elle est équipée de nombreuses glandes dans son corps et qui produit des phéromones. Et toute la colonie baigne littéralement dans un flux d'hormones, de phéromones en fait, et qui vont contraindre les abeilles à tout un tas de choses. Par exemple, les glandes mandibulaires, c'est une sorte de glande de la reine, impactent les ouvrières, il y a 5 composés là-dedans, et ça va déterminer la cohésion de la grappe autour de la reine. La reine est toujours entourée d'une petite cour d'ouvrières qui prend soin d'elle, et ces hormones vont aussi dicter le comportement de cette petite cour. Cette phéromone va également stimuler la production de cire pour construire les petites alvéoles dans lesquelles tout va se passer. Mmh. On stocke la nourriture, mais on élève aussi les petits. Mmh. Ces phéromones inhibent la construction des cellules royales. Et oui, parce que quand les ouvrières commencent à construire les cellules royales, ça veut dire que le règne de la reine en place va prendre fin bientôt. Donc tant qu'une reine se sent bien, elle inhibe la construction des cellules royales par ces phéromones-là. Mmh. Et puis qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle inhibe le développement ovarien des abeilles. Les abeilles sont équipées pour pondre des œufs, les ouvrières. Mmh. Oui, mais tant que la reine produit ces phéromones, les ouvrières ne vont pas utiliser leur système de reproduction.
D'accord.
Et enfin, cette phéromone-là dont je parle influe aussi sur les hormones juvéniles qui vont pousser les butineuses à partir à l'exploration du grand extérieur. Mmh. Alors, c'était juste un exemple. Il y en a plein d'autres, des glandes qui, dans la reine, et qui font des phéromones. Bref, certainement, il y a des lignes directrices chimiques qui sont produites par la reine et qui assurent une cohésion de la part des ouvrières.
Donc on peut le dire, finalement, des milliers d'abeilles parviennent à se coordonner sans jamais se parler comme nous, mais finalement c'est une question de phéromones, d'hormones.
Alors oui, elles ne se parlent pas au sens propre du terme. Mmh. Elles échangent des substances chimiques entre elles et aussi, on va en parler tout à l'heure, elles dansent. Mmh. C'est merveilleux. Alors si on revient sur la chimie, les ouvrières aussi sont équipées de glandes qui produisent des phéromones. Alors, il y en a une qui est très connue, qui s'appelle la glande de Nazanov, et qui se situe au bout de l'abdomen de l'abeille. Et quand l'abeille produit cette phéromone, elle a un rôle de regroupement. C'est-à-dire que toutes les autres vont tendance à se regrouper autour d'elle. Et elle sert aussi à marquer les gisements de nourriture qu'elles ont trouvés dans le grand extérieur. Elles vont déposer une petite substance sur la fleur ou sur la source d'eau, et ainsi les autres abeilles vont pouvoir aller venir prélever la nourriture ou l'eau à cet endroit-là. Voyez, et ça, c'est les ouvrières. Elles se reconnaissent entre elles avec leurs antennes. Leurs antennes, c'est des sortes de capteurs. Quand deux abeilles se rencontrent, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles se palpent avec leurs abeilles déjà pour se rendre compte, est-ce que tu fais bien partie de ma même colonie, toi ?
D'accord.
Et elles vont sentir une phéromone, encore une, produite par une des glandes des abeilles, et qui va dire, oui, je suis dans ta colonie. C'est le même, la même signature chimique. Bon, dans ces cas-là, tout va bien. Mmh. Et une autre phéromone, par exemple, est intéressante. Quand les abeilles détectent une menace, elles vont émettre une phéromone à partir de leur appareil venimeux. Donc, ils ont un dard avec du venin. Il y a des glandes associées à cet appareil-là. Quand les abeilles se sentent menacées par quelque chose, elles vont émettre une phéromone qu'on appelle une phéromone d'attaque, et d'alerte et d'attaque. Eh bien, cette phéromone va faire en sorte que les autres abeilles autour vont se mettre en mode de guerre et éventuellement vont aller attaquer l'ennemi et le piquer. Quand une abeille pique un ennemi, pour elle, ça veut dire qu'elle va mourir juste après. Alors, elle ne le sait pas. C'est pas, faut pas en trop
préciser, oui,
mais
bien sûr.
Elle ne le sait pas. Mais enfin, c'est ce qui va se passer quand même. À l'endroit où elle pique, elle va déposer une petite goutte de phéromone et les autres abeilles vont venir piquer au même endroit. Donc, vous voyez, tous ces exemples-là vous montrent qu'il y a des vrais échanges d'informations par voie chimique.
Et alors, vous nous avez dit quelques mots sur une fameuse danse des abeilles. Qu'est-ce qu'elles se racontent à ce moment-là, exactement,
alors,
entre elles?
C'est un moyen pour elles, à la fois de communiquer aux autres où se trouve le gisement de nourriture et aussi de recruter des collègues pour y aller et ramener le butin. Donc là, il y a deux possibilités. Si la source de nourriture se trouve dans les 100 mètres autour de la ruche, l'abeille revient dans la ruche et fait des petits ronds sur les rayons de cire près de l'entrée. Elle fait des petits ronds. Et quand elle fait des petits ronds, ça veut dire que la source n'est pas loin. Alors à ce moment-là, les autres abeilles tournent de plus en plus loin autour de la ruche jusqu'au moment où elles trouvent la source. Mais si la source de nourriture est beaucoup plus loin, là c'est la fameuse danse en 8. L'abeille revient sur la cire et elle fait une petite ligne droite dont l'angle indique la direction. Et elle revient sur ses pas pour faire une sorte de 8. Et elle frétille de l'abdomen. Et l'intensité du frétillement et la taille des 8 va indiquer à la fois la quantité et la qualité de cette nourriture qui se trouve à cette distance. C'est incroyable.
C'est incroyable.
Donc, plus l'abeille est motivée, plus elle va recruter de collègues qui vont partir avec elle. Cette danse, il y a eu des études très précises qui ont montré qu'elle n'est pas très efficace. Elle donne à peu près l'endroit. Les abeilles, quand elles arrivent sur la zone où il y a le butin, à ce moment-là, il y a l'hormone de Nazanov que j'ai évoqué tout à l'heure qui rentre en ligne de compte puisqu'elles vont guider les collègues par voie chimique jusqu'à trouver effectivement la fleur ou l'eau visée.
C'est intéressant ce que vous nous dites. Donc en fait, finalement, elles ont un vrai fonctionnement interne collectif. C'est ce qui fait que ça fonctionne et qu'elles tiennent ensemble. Vous me disiez aussi, avant qu'on commence cet entretien, c'est que finalement, l'humain... Il y a encore des zones d'ombre sur toute cette intelligence qu'elles ont mis en place pour survivre et fonctionner ensemble.
Alors c'est complètement vrai, Margot, parce que le côté collectif, quand une abeille fait une action, par exemple la fabrication d'une petite cellule de cire, faut pas croire que c'est une abeille qui prend sa petite truelle avec sa cire et qui construit toute seule son alvéole. Il y a plein d'abeilles qui, en passant, fait une petite action de construction et repart ailleurs faire autre chose. Et une autre arrive et contribue à la tâche. Donc c'est pour ça que quand on regarde une ruche, on voit une multitude de petites actions infinitésimales, ce qui n'a pas de sens à nos yeux, mais qui en fait ont un sens. Je voulais dire aussi autre chose. La reine, à un moment donné, elle commence à faiblir, elle commence à vieillir. Et à ce moment-là, elle perd sa capacité à produire toutes ces hormones chimiques dont je vous ai parlé. Les ouvrières s'en rendent compte. Et elles se disent, mais c'est bizarre, on sent plus maman là. Hein, qu'est-ce qui se passe là? Elle est pas bien, elle est plus là, elle est malade ou quoi? Eh bien, elles vont décider collectivement de déclencher un essaimage. C'est pas la reine qui décide, ce sont les abeilles. Elles vont déjà commencer la construction, si je puis dire, d'une nouvelle reine, toute jeune. Et pendant ce temps-là, elles vont faire subir à la reine en place un régime alimentaire draconien, parce que maman, elle a pris du poids et elle n'arrive plus à voler, et pourtant l'essaimage, il va falloir qu'elle vole. Eh bien, ils la mettent au régime, avec un régime alimentaire bien précis. Et font les deux choses en même temps. Quand on voit une ruche essaimée, 3 semaines avant, les abeilles ont commencé le projet. Et ce n'est pas la reine qui déclenche ça, ce sont les abeilles. Donc vous voyez que, certes, il y a une reine, mais il y a une vraie vie collective.
Oui, on ne peut pas parler d'hiérarchie comme on l'entendrait dans le monde humain, finalement.
Pas vraiment, non.
Ce qui est intéressant, c'est que vous, donc votre association Les Abeilles Mayennaises, vous œuvrez sur le territoire pour accompagner les apiculteurs amateurs. Est-ce que vous pouvez nous représenter votre association,
Bien
Emmanuel
sûr. Créée en 2008, l'association, aujourd'hui, nous avons 215 adhérents. Mais l'objet de l'association, c'est la protection des abeilles et des pollinisateurs. C'est ça, c'est dans nos statuts. C'est notre objectif. Et pour faire ça, on a deux moyens. On soutient l'apiculture familiale et de loisirs amateurs, donc les 215 adhérents dont je vous parlais. En Mayenne, il y a à peu près 500 apiculteurs amateurs. Et d'un autre côté, on fait de la sensibilisation et de la formation des enfants et du grand public pour protéger notre environnement et faire en sorte qu'on existe là, qu'on existe encore dans 50 ou 60 ans. Donc voilà ce qu'on fait dans l'association. Donc, nous avons un plan de formation et justement, C'est pour ça que un peu je suis là aussi.
Oui, totalement, totalement pour en parler, justement, oui. pour que nos auditeurs puissent prendre note des événements de cette année, des mois qui arrivent. Je voulais quand même avant ça juste vous poser une question avant justement que l'on prenne l'antenne ensemble. On a pu échanger ensemble sur l'importance de l'apiculture amateur. On n'imagine pas finalement que toutes ces petites ruches sur le territoire global de la France apportent énormément, même en termes de sécurité et de santé des abeilles. Vous pouvez nous réexpliquer ?
Oui, bien sûr. Donc au niveau de la France, il y a à peu près 65 000 apiculteurs, à peu près. Hein. Et les amateurs, ceux qui ont moins de 50 ruches, représentent 91% de ces apiculteurs. C'est dire qu'ils sont responsables aussi de tout ce qui se passe au niveau des abeilles. Les professionnels vivent de leur activité et on doit faire en sorte de les protéger, ces professionnels, en veillant à ce que nos ruches soient bien suivies sur les maladies, qu'elles ne soient pas productrices de maladies. L'autre chose à dire de manière importante, c'est que les petits ruchers dispersés sur le territoire, qui sont les ruchers des amateurs, ils sont aussi un très bon moyen de protection des abeilles, puisque si jamais il y a une maladie qui s'enclenche quelque part, eh bien, elle ne va pas se propager très vite, puisqu'il y a moins de concentration d'abeilles, puisque c'est des petits ruchers. Donc, les apiculteurs amateurs représentent l'énorme majorité écrasante des apiculteurs en France, mais bien sûr, ils ont moins de ruches, puisque les professionnels ont beaucoup plus de ruches. Mais ça donne une responsabilité importante. C'est pour ça que cette association que je préside, j'ai la chance de présider, veille beaucoup à former, proposer des formations qualifiantes aux apiculteurs pour sans arrêt les faire progresser, revoir avec eux les bonnes pratiques pour s'occuper des abeilles.
Puisqu'on ne s'improvise pas, apiculteur, est-ce que vous pouvez nous parler, Emmanuel, du coup, des prochains rendez-vous qui arrivent, des différents ateliers, formations que vous proposez ?
On a deux parties dans les formations. On a des cursus longs. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Les niveaux 1 et 2, c'est 10 samedis après-midi dans l'année de février à septembre, et où là, on va reprendre tout le métier. Le niveau 1, c'est l'initiation. Le niveau 2, c'est l'approfondissement. Le niveau 1, c'est de la théorie à 75%, de la pratique à 25%. Le niveau 2, c'est le contraire. 25% d'approfondissement de théorie, mais surtout, surtout de la pratique avec un apiculteur professionnel. Et après, à côté de ça, il y a des ateliers que nous avons ouvert au grand public l'année dernière. Donc c'est pour ça que c'est important que je puisse en parler, car nous avons des sujets qui peuvent intéresser tout le monde. Nous avons par exemple des ateliers pour faire découvrir les produits de la ruche en faisant du savon. Donc ça, c'est le prochain qui arrive en février. Un atelier, vous repartez avec votre savon fabriqué avec des produits de la ruche. En fin d'année, il y a un atelier avec l'hydromel. Vous allez repartir avec votre hydromel. Il y a un atelier sur les réseaux de Hartmann et Curie, qui sont des énergies telluriques qu'on apprend à connaître et à mesurer et à utiliser pour ne pas mettre les ruches au mauvais endroit. Mais même, ça marche aussi pour nous, hein, les humains. Vous voyez, on essaye de trouver des ateliers très variés qui peuvent intéresser les gens et qui les sensibilisent un petit peu plus encore sur la protection des abeilles.
Ce qui est important aussi pour vous, c'est de s'adresser à toutes les tranches d'âge, à tous les publics.
Alors, effectivement, on reçoit beaucoup d'élèves avec leur classe sur un parcours pédagogique que nous avons mis en place à Laval. Donc, c'est une promenade, on va dire, de 2 heures où l'enfant est exposé à ce que c'est qu'une abeille, les pollinisateurs, l'importance de préserver l'environnement pour notre propre intérêt aussi par la pollinisation. Donc ça, effectivement, il y a beaucoup de jeunes enfants qui profitent de ça. On reçoit beaucoup de groupes d'adultes, des clubs de retraités, des centres de... Enfin, il y a vraiment énormément de structures qui viennent nous voir. Et on commence maintenant aussi à intervenir sur site. Par exemple, à Mayenne, l'année dernière, nous avons fait une intervention au centre d'enfants qui se trouve là-bas sur comment on passe de la fleur au miel. Et c'est un ancien acteur de théâtre qui a fait cette prestation, c'était merveilleux. Donc on va essayer de favoriser ça.
Je pense à l'auditeur qui nous écoute, qu'il soit particulier ou qu'il fasse partie d'une structure qui pourrait être intéressée. Où est-ce qu'on retrouve l'ensemble des rendez-vous que vous nous avez donnés ?
Donc on les retrouve sur le site internet de l'association. Et puis vous pouvez aussi envoyer un email sur l'adresse qui se trouve sur ce site.
On peut aussi devenir bénévole. soutenir l'association et tout ce que vous faites?
Alors bien sûr, si les gens veulent adhérer à l'association, c'est 30 euros par an pour un particulier, c'est une somme assez modique, et on vous ouvre un univers en fait avec une gazette tous les mois, avec des rendez-vous. Donc bien sûr, tous les tarifs des formations ont un tarif privilégié pour les adhérents, donc c'est aussi une façon de... Et on a aussi une petite boutique qui vend du matériel, on fait des rencontres. Donc on peut adhérer déjà. Et on peut, alors parmi les adhérents, on a une chance importante dans cette association des abeilles mayennaises, c'est qu'on a à peu près 75 bénévoles actifs. C'est-à-dire que la différence entre un adhérent et un bénévole actif, c'est un adhérent va utiliser les services de l'association, va vivre ce qui se passe dans l'association. Le bénévole actif, en plus, il va donner du temps régulièrement sur un rucher école. Donc nous avons 3 ruchers écoles dans le département et un rucher pédagogique. Il va donner de son temps dans les commissions, commission communication, pédagogie, événements, et voire même dans le conseil d'administration.
Ce qui est essentiel aujourd'hui, hein, le milieu associatif a besoin de ces bras, de ces bénévoles qui soutiennent aussi le projet.
Ah oui, c'est pour ça que c'est une chance incroyable d'avoir un tel pourcentage parmi les adhérents de bénévoles actifs. Donc on a à la fois la chance d'avoir beaucoup de gens qui nous font confiance, les 215 adhérents, et puis ce noyau de 70 à peu près personnes qui s'engagent. J'ajoute encore une petite chose, Margot, c'est que l'association, c'est aussi un lieu de refuge pour les adhérents. Parce qu'ils sont très malmenés en ce moment avec le frelon asiatique et les varroa qui font... Il y a à peu près 20 à 30% des colonies qui meurent chaque année d'abeilles. Donc les adhérents subissent ça. Et il y a quelquefois des moments très durs pour eux. Et l'association, ça peut être un endroit où ils peuvent venir se ressourcer, retrouver du courage, retrouver de la confiance. On peut les aider à redémarrer leur cheptel, enfin leur rucher, on va dire. Et voilà, il y a ce côté-là aussi, la solidarité et l'attention à l'autre.
Et donc, on rappelle à l'auditeur de l'autre radio, donc votre association, c'est les abeilles mayennaises. On peut retrouver toutes les informations nécessaires sur votre site internet ou prendre contact si effectivement on est intéressé pour vous rejoindre. Merci beaucoup, Emmanuel.
Mais avec plaisir, Margot.
Et donc, à très bientôt. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le studio de l'autre radio. Dans quelques instants, c'est Noé qui prend le micro pour nous parler de Ma Région Virtuose et de la place de la musique dite classique dans notre quotidien. Mais avant ça, eh bien, on va faire une pause musicale et on va la faire avec Nerlove et son titre « Quel dommage ».
Fasse mon avis. Heureusement que t'es beau. Maintenant qu'on peut écouter nos chansons favorites sur toutes les plateformes de streaming, on peut facilement slalomer entre la pop, le rock, le jazz, le blues, etc. Que ce soit pour écouter des petits artistes ou des grands noms, on est dans un chouette temps de ce côté-là. Quand bien même on reste sur de la musique moderne, il ne faut pas oublier que ce bel art a commencé entre le papier noirci, par les portées et les notes et les cordes usées des instruments. Une partie de la musique que les praticiens et les aficionados connaissent très bien. Le hic, c'est que c'est très connu pour ceux qui ont vécu cette éducation musicale ou soit qui ont été mis dedans dès leur naissance comme Obélix avec la potion. Mais si vous comme moi, vous êtes dans une ville du Pays de la Loire où il y a un conservatoire pas trop loin de chez vous, vous avez peut-être vu passer des affiches et autres spots de pub qui couvraient l'événement Ma Région Virtuose. Cette initiative cherche à rendre la musique orchestrale plus accessible. On va pas essayer de la comprendre, c'est elle qui va essayer de se faire comprendre. C'est pour cela qu'on va parler aujourd'hui de Ma Région Virtuose qui s'est tenue du 9 au 25 janvier. Je vous y emmène de ce pas. 3 semaines, c'est peu pour tenter de franchir la barrière ténue entre le monde plus moderne et cette musique qui peut sembler figée à son époque. Mais le pari est lancé. Déjà, on peut dire que c'est pas seulement une célébration du classique, c'est une célébration de notre terroir. Et oui, on a des artistes de Nantes, de Angers et même l'Orchestre National des Pays de la Loire. Car oui, nos régions ont du talent et même beaucoup quand il s'agit de manier l'instrument. Mais si vous n'étiez pas très friand de grande musique avec des grands orchestres, il y avait un petit camion qui se transformait en concert de chambre itinérant traversant toute la région. Un petit espace pour apprécier la virtuosité de 3 ou 4 instrumentistes. Plus besoin de se déplacer, on avait un bus musical, l'autoroute vers une potentielle nouvelle passion était devant nous, autant l'apprendre. Ajouter à ce menu des concerts auprès des lycéens afin de connecter avec une population assez hermétique à cette culture, et comme autre moyen plutôt bien vu, la création d'une playlist Deezer, on y retrouvait les différentes musiques qu'on pouvait y retrouver tout au long du mois. Là, c'est la grande fête, le banquet est énorme, plus de 150 concerts qui font vivre un répertoire énorme couvrant presque 300 ans d'histoire avec Chopin, Brahms, Beethoven ou encore Telemann. Autant dire qu'on était bien servi. Et quand on sait que ça coûte entre 2 et 12 euros le concert, on peut juste que s'empresser d'y aller au plus vite. Là, c'est petit prix, mais grand moment. Mais on peut néanmoins se poser la question, à qui ça doit parler ? Au plus grand nombre, bien évidemment, mais si on axe son événement uniquement sur la musique classique, on risque aussi de laisser des gens sur le carreau. C'est louable de faire une grande fête autour de ce milieu qui peut ressembler à un entre-soi, avec ses références et manières, mais au regard de la playlist qui a été faite pour promouvoir l'événement, tous les titres ne sont pas compréhensibles pour la plupart des gens. Les allegro, les opus avec des numéros farfelus et des noms aussi farfelus, pour la plupart des gens, ça ne leur dit rien. Et puis même, c'est une musique qui, par essence, gagne à être appréciée par les références qu'on y déniche, ou soit par la connaissance des caractéristiques de certains mouvements. Une sonate en ré ou en mi, que ce soit à 3 ou 4 temps, ça reste troublant. Le plaisir n'est pas forcément immédiat, il est très intellectuel. Certes, on peut penser que c'est comme dit plus tôt, figé dans son temps. Évident à dire quand on prend en comparaison notre siècle. Mais au final, j'en reviens à la question... À qui cela doit réellement parler ? Qui doit se reconnaître dans cette initiative ? Car on n'essaie pas d'inclure la musique classique dans des cadres insolites qui mettraient un autre regard sur elle. Elle se restera à son cadre assez strict et un peu académique, alors que c'est l'occasion de faire des mélanges dans lesquels vous seriez choqué et surpris. Mais si on dézoome un peu, on a eu quelques tentatives de pont entre cet art millénaire et la musique actuelle. Par exemple, le hip-hop symphonique, c'était un concept lancé par Feu Radio Move. Une idée toute simple, joliment réalisée, un groupe ou un artiste de rap français, un texte, un micro, un orchestre, et en avant la musique. Je vous laisse sur un petit extrait.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue du
Panama. Autre pont est cette fois-ci faite par la série Bridgerton, qui, pour coller à l'esthétique très anglaise et surtout très Angleterre du 19e siècle, on a des violons et du piano qui reprennent la pop contemporaine, Rihanna, Ariana Grande, etc., etc. Je vous laisse sur un petit extrait. Même quand les morceaux ont un petit nœud papillon et une canne en bois, ces morceaux sont toujours aussi beaux. Ça peut faire preuve aussi de pont entre les plus jeunes qui peuvent être un peu surpris de voir leur chanson préférée à la sauce 19e siècle et se rendre compte que la musique classique peut marcher dans d'autres cas. Et dernier petit exemple, fin 2025, l'artiste catalane Rosalía avait sorti Lux, un opus à l'opposé de son dernier succès. On quitte la chaleur de l'Espagne pour un orchestre grandiose, un chant lyrique avec une bonne touche de modernité. Je vous laisse sur un autre petit extrait.
Crecí y el descaro lo aprendí.
En bref, ce qu'on peut garder de cette initiative, c'est que sur le papier, c'est génial de faire vivre la culture et de la voir dans des lieux un peu insolites, entre guillemets, et que quand même 150 concerts pour 2 euros ou 12 ou 11, bref, c'est pas hyper cher et ça fait vivre la région et ses artistes. C'est quand même assez fou alors que les prix des concerts s'envolent vers l'infini et l'au-delà. Mais si sur le papier, la partition a l'air bien faite, le bémol subsiste. On la restera à son cadre de musique pour initier, quand bien même on essaie de la diffuser au plus grand nombre. Ici, le réel coup à jouer réside dans le fait de s'accorder au grand nombre afin de créer un lien entre les plus érudits et ceux qui n'en savent rien. La chronique et l'ensemble de l'émission qui la compose sont à retrouver en podcast sur le site de L'Autre Radio. Quant à moi, je vous dis à plus tard sur les ondes de L'Autre Radio.
Ça a quelque chose de magique, de palpable, de se dire que ce sont de vraies voix, de vrais gens derrière les manettes d'Idirect. Les petits décalages techniques deviennent précieux, puisque oui, ce sont de vrais gens dans votre émission quotidienne, l'agité du local, sur L'Autre Radio. Alors on va terminer cette émission avec Donatien. Chaque semaine, il arrive avec une histoire. Aujourd'hui, il paraît qu'on traverse la frontière, direction la Belgique, pour parler d'histoire, ou plutôt de ce que l'histoire raconte encore longtemps après, enfin, je ne sais pas, Donatien, c'est à toi. On t'écoute.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'Est. Écoutez le tenir, le plat pays qui est le mien.
Ce pays, on le connaît au moins de nom, c'est la Belgique. Pas d'emblée une destination touristique, mais un micro-trottoir montrerait que, premièrement, contrairement à l'Estonie ou au Monténégro, tout le monde sait où elle se situe. Deuxièmement, tout badaud, même s'il ne s'en souvient pas, a déjà entendu au moins une blague belge et ça l'a fait rire. Troisièmement, outre la mer du Nord, on y trouve encore une reine et un roi, des cathédrales, autant de beffroi, un aéroport international, de la bonne bière, des frites et des douaniers qui font du cinéma. On reconnaît en juillet-août sur nos routes de vacances les voitures dont l'immatriculation commence par le chiffre 1. Ce sont les touristes belges venus nombreux, ayant passé la frontière pour découvrir Brétignolles, Paris, les routes de l'Hexagone et les campings qui bordent l'océan. En septembre, ce sont les studieux étudiants français qui, dans l'autre sens, passent la frontière et poursuivent leurs études dans le pays de Jacques Brel et Axel Red. Le jeune Thomas Rouanet, après avoir essuyé 10 refus d'admission sur Parcoursup, s'est résolu à passer la frontière, étudiant dans la filière architecture. Aujourd'hui, en master, il témoigne dans West France. Comme lui, près de 20 000 étudiants s'exilent dans ce pays, berceau de l'art flamand, où Ostende, bord de la mer du Nord, et où le bœuf bourguignon se prépare à la bière. Donatien, qui fréquente assidûment les salles obscures, doit bien des émotions cinématographiques à Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Damiens, Cécile de France, ou la regrettée et talentueuse Émilie Duquesne. Tant d'actrices et d'acteurs, tous belges, qui n'ont rien d'autre à déclarer que leur talent. Quant aux artistes de la chanson, ils ne sont pas en reste, de Plastic Bertrand à Lara Fabian, en passant par Arnaud, Stromae et Salvatore Adamo. Pour illustrer cette chronique, Donatien avait donc l'embarras du choix. Pourtant, c'est un Hollandais qui a confié la mission de nous faire voyager en chanson. Dick Hanegarn nous invite à rejoindre Mademoiselle Bruxelles.
Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour aigrie. Et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les léons, les noms du Dieu, sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit.
C'était Bruxelles de Dick Annegern. Bien sûr, vous l'avez reconnu, la JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Emmanuel Malo d'être passé dans le studio de l'autre radio. Merci à Noé. Merci aussi évidemment à notre chroniqueur du jour, Donatien. La musique originale de cette émission est, comme chaque jour, signée Lenaïk Folzour. Je rends l'antenne, mais restez à l'écoute de l'autre radio puisque ça continue bien sûr sur nos ondes. À 19h, c'est l'émission Sorcière. Alors pour bien commencer l'année, l'équipe est au complet. Louane à la technique, elle ne quitte plus sa console. Morgane réveille notre colère avec sa chronique actu. Ingrid nous invite à revoir nos postures et à faire alliance. Le tout ponctué d'interludes musicales proposées évidemment par Anna, des discussions, de l'engagement et toujours cette bonne humeur qui fait du bien, qu'on reconnaît bien dans cette émission. Les sorcières vous souhaiteront également bien sûr une très belle année. À 21h, eh bien rendez-vous avec Frères de Chaussures. C'est une émission de rap français proposée par Fatshu. Une émission qui fait place au texte, au flow, à ce que raconte le rap du monde. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de la JT du local. Demain on se posera une question simple: comment s'engager et agir ici depuis chez soi? On sera avec l'association Teranga 53. D'ici là, prenez soin de vous, prenez le temps qu'il vous faut et surtout, s'il vous plaît, vous le savez, faites-le bien.
Voilà, rideau tombé pour aujourd'hui.
Mais revenez demain, on vous garde des places.